Père Jean-Claude Rodriguez, vicaire général du diocèse de Nîmes, merci d'accepter l'invitation de venir nous parler du diocèse et particulièrement de l'œcuménisme dans le diocèse. Bonjour.
Eh bien bonjour, écoutez avec plaisir, je suis là à l'antenne.
Meilleurs vœux, hein?
Mais meilleurs vœux, puisqu'on est en début d'année, oui,
mais
en effet.
Oui, bien sûr.
Eh oui.
Mais alors, l'œcuménisme dans le diocèse de Nîmes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Enfin, je veux dire, comment dire, il y a une cohabitation entre les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, avec d'autres réalités d'église.
L'œcuménisme, bon, vous savez d'abord que le mot œcuménisme, ça veut dire communion. Et donc, ben, l'œcuménisme, dans ce sens-là, il existe depuis la croix de notre Seigneur.
Donc,
donc ça fait longtemps, en effet. Bon, l'œcuménisme, il est vraiment enraciné, et ça, il faut surtout ne pas l'oublier. D'ailleurs, pour les auditeurs et éditrices qui ont lu les orientations de Mgr l'évêque, vous avez vu que par deux fois dans ces orientations, Mgr l'évêque parle en effet de l'œcuménisme, de l'unité des chrétiens, et dans les deux cas où il en parle, il fait vraiment référence à l'évangile selon saint Jean, chapitre 17e, et ce mouvement œcuménique qui a démarré, alors je ne sais pas l'année exacte, peu importe, mais qui a démarré, je vais dire, dans la première partie, dans le premier quart, on va dire, au premier tiers peut-être, du 20e siècle. Voilà, donc ce mouvement œcuménique, il s'enracine vraiment dans la prière de Jésus, chapitre 17 donc, de l'évangile selon saint Jean, que tous ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Et ça, il ne faut vraiment pas le perdre de vue, parce que, voilà, vous disiez à l'instant, là, voilà, c'est un mouvement qui est présent depuis quand chez nous? Alors, évidemment, on part de ce premier tiers du XXe siècle, bien sûr, mais il ne faut pas oublier l'œuvre du Concile Vatican II, qui a vraiment œuvré à sa manière pour l'unité des chrétiens. Et je crois que dans le Gard, comme ailleurs certainement, mais dans le Gard, si vous voulez, je ne sais pas comment il faut le dire, je vais le dire de cette manière-là, il y a plusieurs étapes, si vous voulez, dans notre recherche de l'unité des chrétiens. Alors, je crois que nous avons, je dirais, dépassé, alors comment faut-il dire, un œcuménisme, allez, je vais dire familial, si vous voulez, c'est-à-dire un œcuménisme de proximité. Voilà, alors je vais prendre un exemple, tout simple, je vais me marier avec une dame protestante, eh bien, il y a 70 ans, on me disait, monsieur, vous ne pouvez pas, on vous mariera à la porte de la sacristie, bon, voilà, très bien, enfin, très bien, c'était comme ça, et bon, voilà. On a dépassé ça, fort heureusement.
Vous appelez ça un œcuménisme de proximité?
Oui,
ça.
De proximité. Alors, on a dépassé ce moment-là, ce temps-là, où finalement, on s'ignorait charitablement. Mais enfin, on s'ignorait et on faisait plus que de s'ignorer. Je vais dire, entre guillemets, on se haïssait. Mmh. Bon, voilà.
Ouais, bah, dans le diocèse, on a quand même eu des personnes qui sont décédées suite à ces
bagarres. Mais bien sûr,
bon,
vous savez
entre...
que bon, la guerre des camisards, comme nous disons chez nous, ben, elle est bien née chez nous,
bien
dans
sûr.
Le Gard, pas, non loin d'Anduze d'ailleurs. Bon, elle n'a pas duré longtemps, fort heureusement, mais elle a laissé beaucoup de traces, qui sont des traces indélébiles, comme toutes les guerres. Bon, de 1702 à 1704, ça a été terrible dans tout notre département, un peu ailleurs aussi, hein, un peu en Ardèche, un peu en Lozère aussi, une partie de l'Hérault aussi ont été touchés donc, par cette guerre-là, des camisards, donc évidemment, cela laisse des traces, naturellement. Bon, fort heureusement, on a dépassé tout cela, et maintenant, nous avançons toujours plus dans un œcuménisme de proximité, un œcuménisme où on se rend compte que ben, le Christ, il n'a fondé qu'une seule Église, voilà, et que nous avons à travailler. Alors moi, j'aime beaucoup reprendre l'image de la tunique du Christ. Les évangiles, là, au moment de la Passion, nous font remarquer que cette tunique, elle était cousue d'une seule pièce. Et les pères de l'Église ont voulu voir, justement, dans ce tissage, en une seule pièce, l'unité des chrétiens, l'unité de l'Église. Voilà. L'Église, elle est une, comme la tunique du Christ, elle est une. Sauf que, par la volonté des hommes, hélas, une volonté peut-être dévoyée, en tout cas, une volonté, comment dirais-je, pécamineuse, enfin touchée par le péché, hein, eh bien, cette tunique, elle a été finalement déchirée. Bon, il y a de grandes dates de cette déchirure. Évidemment, on pense à 1054, le schisme avec l'Orient. On pensera aussi au XVIe siècle, la déchirure avec Luther, Luther, Calvin, etc. Bon, plus près de nous, hein, la déchirure de 1870 autour du Concile Vatican I, encore plus près de nous, la déchirure de 1988 avec le schisme de Mgr Lefebvre. Voilà, donc, cette tunique du Christ, c'est-à-dire cette unité de l'Église, elle est quand même endommagée, hélas, bien souvent, par, ben oui, par la volonté des hommes, une volonté qui n'est pas ajustée à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous, ils soient un.
Pour en revenir de comment, dans le Gard, on vit cet œcuminisme. Vous avez dit qu'il y a eu plusieurs étapes.
Oui, il y a eu plusieurs étapes. Alors, une étape fort heureusement, maintenant, on a de fait plusieurs étapes. Maintenant, on a dépassé, je pense, cette espèce de, je disais tout à l'heure, cette espèce de haine, si vous voulez. Bon, voilà, on est capable de se parler, on est capable de se rencontrer. Et je crois que le dialogue, précisément, est quelque chose qui est très important. Et pas seulement le dialogue, mais le dialogue peut s'ouvrir aussi. Alors je pense notamment, je crois que c'est Jean-Paul II qui parlait de cela, l'œcuménisme de la charité. C'est-à-dire que par exemple, on peut voir aujourd'hui des actions communes entre catholiques, protestants, voilà, enfin, différentes familles chrétiennes, je dirais, des actions communes qui sont ouvertes à la charité, etc. Voilà, ou des actions communes en matière de témoignage aussi, témoignage, je dirais entre guillemets, témoignage de rue, enfin, voilà. Les chrétiens ensemble témoignent de leur foi, et ça aussi c'est très important, même si on n'est pas totalement unis aujourd'hui, hein, mais de pouvoir dire le point de départ de notre foi, il est un. Voilà, et nous témoignons de cette unité de la foi, même si dans nos églises, eh bien, on ne vit pas cette unité de la même manière. Alors évidemment, le dialogue théologique, il se situe, lui, sur un autre niveau, sur un autre plan. Et il est évident que nous avons à poursuivre, bien sûr, ce dialogue théologique en matière d'œcuménisme, parce qu'il faut avoir, je crois, la loyauté de dire, bien sûr, nous avançons, et c'est la volonté du Christ, nous avançons et nous voulons avancer vers l'unité des chrétiens, mais il faut être loyal et dire, ben, aujourd'hui, il y a encore des points, ben, qui nous éloignent les uns des autres, qui nous divisent encore. Et il nous faut travailler à cela, il faut travailler à dépasser cela, voyez, pour voir comment nous pouvons retrouver la pleine communion des uns avec les autres. Alors, il y a les points théologiques, il y a les points, je dirais, de théologie ecclésiale. Par exemple, le pape Jean-Paul II avait demandé dans une lettre, justement, sur l'unité des chrétiens, eh bien, il avait demandé qu'on étudie comment ils pouvaient vivre le ministère pétrinien, c'est-à-dire ce ministère de communion qui est attaché, justement, au ministère du successeur de Pierre, c'est-à-dire au pape de Rome. Voilà, donc, vous voyez, l'œcuménisme, eh bien, c'est une longue marche, en même temps qui est enthousiasmante, parce qu'elle est ouverte à l'unité de l'Église, à la pleine communion des chrétiens, et ça, je crois que ça doit nous enthousiasmer.
Alors, on aurait aimé que le père Alexis Boris se joigne à vous aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Quel est son rôle, lui, dans l'œcuménisme?
Eh bien, son rôle est comme le mien, c'est-à-dire nous sommes tous les deux délégués diocésains à l'œcuménisme, et donc notre rôle, que ce soit celui d'Alexis, du père Alexis Boris, ou bien le mien, eh bien, c'est d'être en relation, alors je dirais, en relation à, je vais dire à double face, voilà. Donc, en relation avec les prêtres, d'une part, pour les prêtres, et puis les fidèles catholiques, bien sûr, aussi. Voilà, pour leur faire aimer ce mouvement œcuménique, c'est-à-dire cette prière pour l'unité des chrétiens, et puis ces actions aussi en vue de l'unité des chrétiens. Et puis notre rôle, c'est aussi d'être en lien avec les pasteurs, par exemple des églises de l'EPUF, l'Église réformée de France, comme on le disait jadis, ou bien les églises évangélistes, et puis les fidèles aussi, bien sûr. Voilà, nous pouvons être en relation, pardon, les uns avec les autres, comme on l'a montré il y a quelques mois, vous savez, à Nîmes, au mois de mai, quand nous avons, avec dans les églises réformées au sens très large, à Nîmes, nous avons donc mis en œuvre ce colloque œcuménique pour célébrer le 17e centenaire du Concile de Nicée, eh bien, ça a été vraiment une œuvre œcuménique. Vous voyez, ce colloque-là.
C'est super. Et il me semble aussi que vous faites une déclaration commune. Est-ce que c'est avec le même groupe, une déclaration commune de Pâques?
Alors ça, c'est à Nîmes. C'est un peu propre à Nîmes, de fait. Il y a la proclamation de Pâques. Alors, l'année dernière, on a un peu tergiversé sur cette question-là. Cette année, avec ce que nous appelons ici sur Nîmes le CNEC, c'est-à-dire le comité nîmois des églises chrétiennes, eh bien, on est en train d'envisager peut-être de nouvelles modalités pour cette proclamation de notre foi en Jésus-Christ ressuscité.
Et c'est voilà. Beau, ça.
Et d'ailleurs, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui chaque année, c'est du 18 au 25 janvier. Donc
et pourquoi
cette année...
ces dates-là?
Alors, du 18 au 25, en fait, ce qui a fait choisir cette date-là, c'est surtout, non pas tant le 18 que le 25. Et oui, mais parce que le 25, c'est la conversion de saint Paul. Voilà, et que effectivement, l'œcuménisme, ça nous invite vraiment à une conversion pastorale. C'est une invitation à la conversion. Voilà, il faut se convertir à la volonté de Dieu pour rechercher ensemble l'unité, non pas de l'Église, elle est une. On le proclame chaque fois qu'on dit le « je crois en Dieu », nous disons « je crois en l'Église une, sainte ».
Bon,
mais l'unité des chrétiens, nous devons rechercher. Voilà. Et cette unité des chrétiens, elle passe, de fait, pour chacun d'entre nous, chrétiens que nous sommes, de toute confession de foi confondue, eh bien cela passe par notre conversion personnelle, et qui entraînera la conversion, d'une certaine manière, de nos églises.
Donc pour en revenir à cette semaine de prière de l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier.
Voilà, et bien nous, à Nîmes, alors je crois que c'est aussi une réalité qui est présente ailleurs dans notre diocèse, je ne sais pas exactement les lieux, mais ailleurs, nous sur Nîmes, par exemple, nous avons une rencontre prêtre et pasteur, voilà, au cœur de cette semaine, entre le 18
toujours,
et le 25.
Toujours,
c'est,
eu voilà, ça, oui.
C'est toujours ça, et cette rencontre-là, elle ne se vit pas qu'à Nîmes. Je crois qu'à Alès, il y a aussi une rencontre prêtre et pasteur, et dans d'autres endroits aussi de notre diocèse, il y a, de manière assez régulière d'ailleurs, dans certains lieux.
Ah, nous, à Pont-Saint-Esprit, je peux vous dire, une semaine, une année, on va au temple des protestants, et c'est le curé de la paroisse qui fait le prêche.
Oui, oui.
Et l'année d'après, c'est, on va à l'église catho, et c'est le pasteur qui va faire...
Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui a été vécu dans le cadre donc de Fideo.
Oui.
Voilà le service donc diocésain de notre formation Fideo, ce qui a été vécu l'année dernière, quand je dis l'année dernière, oui c'était en 2025 certes, ce qui a été vécu à Alès, la journée donc Fideo à Alès, une partie des participants, eh bien sont allés à la rencontre de la communauté pentecôtiste. Voilà, et donc ça aussi c'est une manière, voyons, on n'a pas attendu la semaine de l'unité des chrétiens pour cette rencontre-là. Il se trouve que nous avions une rencontre importante ce jour-là à Alès, et donc dans l'après-midi, diverses activités étaient proposées à ceux qui participaient donc à Fideo. Certains sont allés par exemple au musée du désert, à Mialet. Il faut y aller. Il faut aller rencontrer. Voilà, il faut aller à la découverte aussi de cette page historique qui est relatée au musée du désert. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Je suis allé avec des prêtres. Nous sommes même allés avec les évêques de la province. Et nous avons toujours été très bien accueillis. On nous a toujours très bien expliqué ces pages de l'histoire qui sont relatées donc à travers ce musée du désert. Et donc, un certain nombre de personnes sont allées au musée du désert, mais d'autres personnes sont allées à la rencontre de la communauté pentecôtiste, donc d'Alès, et je trouve que ça, c'est très intéressant, voyez-vous, pas s'en tenir de manière très formelle, finalement, à un échange de chair à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Voilà, monsieur ou madame le pasteur va venir prêcher à l'église et puis vice-versa.
Ça, c'est bien, mais
alors,
c'est pas
déjà pas mal.
Oui.
C'est très bien, oui, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Mais alors, par contre, il y a autre chose qui est peut-être mieux encore, c'est d'aller à la rencontre d'une communauté. Voilà, à la rencontre d'une communauté qui est vraiment un dialogue de communauté à communauté, pas seulement une, je dirais une parole qui tombe de, du haut de la chair.
Est-ce que ça ne nous met pas en danger quand on va à leur rencontre? Est-ce que ça peut nous bouger dans nos certitudes à soi?
Ah ben ça peut nous bouger, mais est-ce qu'il faut avoir peur d'être un peu secoué dans nos certitudes?
On a bien dit que c'était la conversion de Saint-Paul,
oui.
Hein, la date
Moi,
du 25 janvier.
Moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur quelquefois d'être secoué dans nos certitudes,
oui.
Mais je crois que nos frères chrétiens d'autres confessions peuvent être aussi secoués dans leur certitude. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de cela. Mais ensemble, nous avons à rechercher la vérité.
Est-ce que vous trouvez, quand vous faites ces rencontres prêtres-pasteurs, ces rencontres avec d'autres communautés, est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce que des fois, on vous rentre dedans, on vous sort des choses qui peuvent être désagréables à vivre?
Et ma foi, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Mais oui, mais est-ce que c'est gênant? Moi, ça ne me gêne pas. Mais des frais, c'est vrai. Mais vous savez, ce n'est pas que dans nos relations œcuméniques où on peut nous sortir des choses un peu désagréables.
Bien sûr.
Vous savez, vous pouvez rencontrer des gens dans la rue qui viennent vous parler et qui ont un certain regard sur l'histoire de l'Église et qui peuvent vous sortir des pages de notre histoire qui ne sont pas de belles pages. Mais cela me renvoie à une chose qui est très belle. Vous savez, juste avant Noël, nous, les catholiques, la messe quotidienne, le premier jour de la neuvaine, là, qui prépare la fête de Noël, c'est-à-dire le 17 décembre,
oui,
à la messe, nous entendons quelle lecture de l'Évangile? Nous entendons la généalogie du Christ.
Oui.
Le genre littéraire de la généalogie, je vais le dire comme ça, j'espère que je n'offusquerai aucun auditeur ou auditrice. Enfin, c'est un peu barbant quand même, comme genre littéraire.
Ah, ça c'est clair.
Bon. Mais quand on entend tous les noms qui sont cités, alors, depuis Adam et Ève ou depuis Abraham, selon la généalogie. Quand on entend tous les noms qui sont cités, on dit, ah, pétard, ce nom-là, mais oui, mais quelle belle histoire. Puis on entend d'autres noms, c'est, oh là là, oui, celui-là, bon, l'histoire n'a pas été très belle. Et en fin de compte, on apprend que de cette histoire-là né Jésus-Christ. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que Dieu nous aime tellement qu'il a épousé toute notre histoire. Il n'a pas épousé que les belles pages de notre histoire, il a épousé aussi les pages qui ne sont pas belles de l'histoire sainte, parce qu'il nous aime. Voilà. Et donc, si on nous dit, mais voilà, dans votre histoire, vous, Église catholique, il y a des choses qui ne sont pas belles, eh bien oui, peut-être. Mais il y a aussi des choses qui sont très belles dans notre histoire. Voilà. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de regarder loyalement, je disais tout à l'heure, à la recherche de la vérité. Moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à cette recherche de la vérité, et c'est un petit dialogue, un petit détail, je dirais, dans un dialogue entre Jésus et Pilate. Un dialogue que nous connaissons très bien tous, mais on ne fait pas attention à ce petit détail. Moi, c'est un détail que j'ai découvert, je ne sais plus comment, je ne l'ai pas inventé, rassurez-vous. Mais j'ai découvert un jour, en écoutant je ne sais plus qui, peu importe, qui nous faisait remarquer que, voilà, dans ce dialogue entre Jésus et Pilate, Jésus dit à Pilate, « Celui qui écoute ma parole appartient à la vérité. » Il n'a pas dit, « Celui qui écoute ma parole, la vérité lui appartient. » Mais l'inverse, il appartient à la vérité. Autrement dit, nous avons à appartenir à la vérité. Et cela change tout dans notre relation à la vérité.
Oui, c'est-à-dire qu'on l'appartient, mais on ne la possède pas.
On ne la possède pas, on lui appartient.
Et c'est beau.
Voilà,
ce que vous
c'est
dites
la vérité, c'est-à-dire que c'est Dieu, puisque Dieu est vérité, qui nous possède. Et on a à se laisser posséder.
Et alors,
par elle, c'est-à-dire par Dieu, qui est vérité.
Vous qui fréquentez donc assez régulièrement nos frères et sœurs chrétiens de d'autres églises, qu'est-ce que ça a bougé chez vous? Parce que vous avez une posture quand même, vous êtes le bras droit de l'évêque, vous êtes prêtre, vous appartenez à l'Église catholique depuis longtemps. Vous venez d'une famille chrétienne profonde, vous avez un sacré chemin.
Oui, alors faut-il parler de mes relations plus récentes? Moi, vous savez, quand on me pose cette question, je pense toujours à une histoire qui m'a beaucoup ému et qui m'émeut toujours. J'étais prêtre à Alès, à cette époque-là, et un monsieur, qui était protestant d'ailleurs, ce monsieur avait travaillé dans la première restauration de la cathédrale d'Alès. Il avait donc travaillé dans la chapelle de la Vierge de la cathédrale. Et c'est lui qui avait refait des stucs de cette chapelle de la cathédrale d'Alès. Ce monsieur, un jour, vient me voir en me disant, écoutez, voilà, monsieur le curé, je suis gravement malade, j'en ai plus pour bien longtemps, et donc je viens vous demander de célébrer mes obsèques. La raison, c'est que voulez-vous, moi j'ai travaillé dans cette cathédrale, et c'est là que je veux être enterré, enfin que mes obsèques soient célébrées, et donc, ben, écoutez, voilà, c'est vous qui le ferez, puisque vous êtes le curé de la cathédrale. Bon, et puis voilà que, quelques jours avant sa mort, je me souviens très bien de ce moment-là, il me fait appeler. Et de fait, son aide ménagère, je dirais sa gouvernante, comme on disait, m'appelle et me dit, écoutez, voilà, monsieur le curé, ce monsieur va de plus en plus mal et il voudrait que vous veniez le voir. Et donc, j'y suis allé. Alors, ce monsieur, il était sculpteur, hein. Quand on passe à Alès, il y a un rond-point qui s'appelle le rond-point du mineur. Eh bien, le mineur qui est là en train de pousser sa chariote, c'est lui qui l'a sculpté en bronze. C'est une très belle statue.
Ah oui, elle
quand
est belle.
Je passe, moi, par là, toujours,
vous
je pense à ce
à
monsieur.
Oui.
Et alors, ce monsieur me dit, on parlait de son travail, on parlait de ses sculptures, on parlait de sa foi. Et puis alors, deux choses, vous voyez, de ce dialogue, qui sont pour moi absolument inoubliables. Je lui dis, mais quand vous sculptez, vous partez de quoi? Vous faites d'abord une statue en cire, puis vous faites fondre la cire et vous coulez votre bronze à l'intérieur. Il me dit, pas du tout. Il me dit, quand on fait une sculpture, par quoi? Il me dit, on commence par sculpter de la glaise, de l'argile. Et là, il ajoute une question qu'il m'adresse en me disant, et d'ailleurs, monsieur le curé, qui est le premier sculpteur? Oh ben, j'ai dit, bien naturellement, c'est Dieu, puisque... Parce que Dieu modèle d'abord l'homme dans de la glaise et puis il lui a un souffle de vie. Naturellement, c'est Dieu. Et puis le dialogue se poursuit avec ce monsieur. On en vient à parler, figurez-vous, on en vient à parler de son chien. Son chien était mort récemment à ce monsieur. Et il me dit, eh bien voyez, ce que moi je n'ai pas pu faire pour mon chien, parce que si j'avais pu le ressusciter, mon chien, je l'aurais fait. Ce que moi je n'ai pas pu faire pour mon chien, Dieu le fera pour moi. C'est-à-dire, Dieu me ressuscitera. Eh bien, je puis vous dire qu'après cette rencontre, ce dialogue avec ce monsieur, je me disais la même chose que Jésus dans l'Évangile. C'est-à-dire, jamais je n'ai trouvé en Israël une telle foi. Voilà. Et je me souviens, voyez-vous, ce titre d'un ouvrage que j'ai lu en 1979. Ça fait longtemps, j'avais 19 ans. Hein. Bon, j'en ai 65. Bon, donc ça fait longtemps. Eh bien, ce livre avait été écrit par le frère Roger de Thésée. Vous voyez, donc on est encore dans l'œcuménisme. Hein. Ce livre s'appelle « Étonnement d'un amour ». Et qu'est-ce que c'est ce livre? C'est un journal tout à fait ordinaire de frère Roger. Mais à chaque page de ce journal, c'est un appel, c'est une invitation à l'émerveillement. Voilà, eh bien moi je puis vous dire que dans mes relations actuelles, notamment avec les pasteurs de Nîmes, eh bien je suis souvent émerveillé par la foi que je rencontre chez nos frères réformés.
Eh bien, écoutez, merci de nous en avoir parlé. Et ça nous lance sur cette belle semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci d'avoir éclairé un peu nos connaissances sur comment c'est vécu dans le diocèse. Et puis, cette belle invitation à s'émerveiller.
Mais merci à vous, auditeurs et auditrices, et encore bonne année. Et puis, voilà, bonne prière, bonne semaine de l'unité des chrétiens et bon temps de prière pour cette unité qui est si chère à notre Seigneur Jésus-Christ.